Ici, plus qu'ailleurs, un discours politique augmente ses chances de séduire s'il prétend engager une révolution de quelque nature qu'elle soit.
Nous avons une trop haute idée de la fonction de l'art pour lui refuser une influence sur le sort de la société. Nous estimons que la tâche suprême de l'art, à notre époque, est de participer consciemment et activement à la préparation de la révolution. Ces mots, cher public des rencontres de Pétrarque, chers auditeurs, cher Hervé Gardette, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Pierre
Vous les avez reconnus, ces mots, ce sont ceux des surréalistes en 1938 et aujourd'hui, ils sonnent un peu curieusement. Le XXe siècle totalitaire nous a appris à nous méfier de tous ceux qui prétendent confier à l'art une mission politique. Et pourtant, si le désir de révolution, ce désir qui nous occupe tout au long de la semaine, si ce désir subsiste, s'il désigne toujours l'urgence d'un autre monde, d'un monde plus juste, d'un monde plus beau, alors la révolution est un geste politique, c'est aussi un geste culturel, peut-être d'abord culturel. Non pas au sens où les œuvres devraient délivrer un message insurrectionnel, mais parce qu'une chorégraphie de Caroline Carlson, une sculpture d'Anish Kapoor, ou pourquoi pas un rap de Booba ou d'NTM, on l'a entendu juste avant ce générique, eh bien tout cela, toutes ces œuvres peuvent imposer une nouvelle manière de phraser le monde. On ne leur demande plus à ces œuvres de préparer un lointain grand soir, mais de changer la donne ici et maintenant. Bouleverser la distribution des rôles, refonder la liberté des corps, instaurer un nouveau rapport entre les mots et les choses. En un mot, bouleverser ce que le philosophe Jacques Rancière nomme le partage du sensible. Voilà ce dont l'art est capable et voilà en quoi il demeure potentiellement révolutionnaire. Encore faut-il que ce partage tende vers l'universel, qu'il ne masque pas des intérêts claniques ou particuliers. Culture pour tous, culture de classe, c'est la question que nous posons ce soir avec Daniel Mesguich, Aurélie Filippetti et Nathalie Hennick, cher Hervé, que je vous laisse nous présenter.
Bonjour Nathalie Hennick.
Bonjour, rebonjour.
Rebonjour, oui rebonjour parce qu'on s'est vu en fait, hein, évidemment juste avant le début de ce direct. Vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS, vous êtes la lauréate du 6e prix Pétrarque de l'essai, celui donc 2017, que nous vous avons remis avec nos camarades du Monde et France Culture pour Des valeurs, une approche sociologique, ouvrage que vous avez publié il y a quelques mois de cela chez Gallimard. Vous étiez présente hier en fin de discussion, puisqu'hier nous parlions des valeurs, donc c'était forcément un sujet sur lequel vous aviez beaucoup de choses à dire, et c'est d'ailleurs un sujet qui directement ou indirectement traverse un certain nombre de vos travaux. Vous êtes par ailleurs et également intéressé beaucoup à l'art, au statut de l'artiste, mais encore à la politique culturelle, et c'est un des sujets qui va nous occuper pendant cette émission jusqu'à 18h.
Je présente maintenant Daniel Mesguich. Bonjour, Daniel Mesguich.
Eh bien, bonjour.
Vous êtes metteur en scène, comédien. Vous sortez tout juste d'un spectacle, là, il y a quelques heures, à Avignon, hein, avec un spectacle de quelqu'un qui a un grand rapport à la Révolution, puisque c'est Olivier Rollin, Au bout du monde. Donc, merci d'être là. Vous avez volé en voiture vers Montpellier. Et vous avez un lien très fort, d'ailleurs, avec ce festival d'Avignon, qui a été pensé par son fondateur comme un haut lieu du théâtre populaire, engagé aussi. Vous avez monté, je crois qu'il faut le rappeler, un Shakespeare dans la cour d'honneur du Palais des Papes à l'âge de 30 ans, hein, quand même. Vous vous êtes imposé très jeune sur cette scène du théâtre français comme une figure provocatrice, subversive, avec cette idée qui vous tient à cœur et que vous répétez souvent et selon laquelle le théâtre déborde de très très loin la seule activité théâtrale pour exalter nos gestes les plus quotidiens, nos indignations les plus ordinaires. Comme cette idée, d'ailleurs, on la retrouve dans le beau recueil de textes que vous avez publié récemment chez Gallimard, qui s'intitule « Estuaire ».
Et notre troisième invité, c'est donc Aurélie Filippetti. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été ministre de la Culture et de la Communication de mai 2012 à août 2014, qui était une période compliquée sur le plan budgétaire, puisque vous étiez à la tête d'un ministère où les subventions étaient en baisse. Vous
aviez comme
maintenant d'ailleurs. Vous aviez une vie de député avant d'entrer au gouvernement. Vous en avez eu une après, député de la Moselle. Vous avez été battu en juin dernier. Vous êtes sorti aujourd'hui de la politique. Et bien que vos origines vous renvoient en Lorraine, vous êtes en quelque sorte la régionale de l'étape dans cette table ronde ce soir, puisque vous présidez depuis l'an dernier le CINEMED, le festival du cinéma méditerranéen méditerranéen de Montpellier, dont la prochaine édition aura lieu du 20 au 28 octobre. Alors j'ai vu que dans la précédente édition, celle de 2016, le Cinémed avait notamment donné la parole à la Tunisie, aux cinéastes tunisiens, 5 ans après la révolution de Jasmin, pour voir un petit peu comment étaient restitués ces bouleversements politiques, à la fois dans la fiction et dans le documentaire. C'est vrai que la culture, elle sert à ça, à témoigner de ce qui se passe. Elle sert aussi peut-être à annoncer ce qui est en train de se passer sans qu'on s'en rende compte tout à fait. Moi, j'aimerais savoir si vous considérez que, en particulier quand on est un homme ou une femme politique, on a intérêt à lire des romans, à aller au théâtre, à aller voir des films, parce qu'on peut peut-être y percevoir des choses, des mouvements qui seront à l'œuvre dans les mois qui vont ou les années à venir.
Bah d'abord, si un homme ou une femme politique lit des romans ou va au cinéma, c'est parce que c'est une nécessité, j'allais dire existentielle, finalement, pour chacun d'entre nous et pour tout individu désireux d'une forme d'émancipation par rapport à lui-même, par rapport à sa manière de voir le monde. La culture, c'est toujours un dialogue avec l'autre et donc une ouverture sur quelque chose qu'au départ, on ne connaît pas, une aventure. Donc pour moi, c'est indispensable quand on fait de la politique d'avoir cette ouverture et ce dialogue. Ensuite, bien sûr, ça apprend aussi des choses à l'homme ou à la femme politique de l'état du monde. On parlait du Cinémed, c'est vrai que moi j'y ai vu par exemple l'an dernier des films faits par de jeunes réalisateurs ou réalisatrices tunisiennes sur la révolution, enfin sur ce qu'on a appelé la révolution de Jasmin, qui m'ont éclairé d'une manière que finalement je n'avais jamais rencontrée à travers simplement la lecture journalistique.
Est-ce que vous parleriez un instant de révolution vous-même, parce que j'écoutais là tout à l'heure, est-ce que pour vous en tant qu'ancien ministre de la culture, vous auriez pu dire voilà, l'art justement ça prépare la révolution, c'est révolutionnaire. J'écoutais ce matin même une excellente émission diffusée sur France Culture dans les nuits de France Culture, c'est un entretien d'André Malraux à la radio en 1967. Et donc comme ministre fondateur du ministère de la Culture, qui n'a aucun problème à parler de révolution, à dire que la révolution et l'art, ça va complètement ensemble, etc. Et à avoir des propos d'ailleurs sur De Gaulle, à critiquer De Gaulle ou à commenter des phrases de Gaulle qui disent que la révolution, les Français en ont assez de la révolution. Ça apparaissait donc à l'époque, à quelques mois de 68, évident, à quelqu'un qui a un rapport tellement fort à la culture aussi institutionnelle et étatique qu'André Malraux. Est-ce que pour vous, ça l'est aussi?
Bah, le lien, oui, au sens où les grandes révolutions politiques ou sociales sont à la fois précédées et accompagnées souvent de révolutions esthétiques. Donc je ne pense pas qu'on puisse lire seulement les révolutions à l'aune des œuvres d'art et de l'esprit. Mais néanmoins, si on parle, par exemple, effectivement, des moments... on parlait tout à l'heure de la révolution de 1917 en Russie, ça s'accompagne d'un formidable foisonnement esthétique dans toutes les disciplines, que ce soit évidemment la peinture, la sculpture, la littérature, la musique. Et donc ça, mais pour moi, ça c'est un accompagnement, c'est-à-dire que les deux vont de pair. Et si on prend la Révolution française, elle a été précédée surtout par une évolution dans les domaine des idées, dans le domaine intellectuel, par des réflexions, puis suivies par des mouvements esthétiques. Donc je ne pense pas que la révolution artistique annonce une révolution politique nécessairement, mais il y a toujours un impact de l'un sur l'autre.
Alors les deux vont de pair, a priori, Daniel Mesguich ne devrait pas vous contredire, puisque j'ai lu dans une interview récente que vous avez donnée à Libération, je vais vous citer, qu'adolescent, au-dessus de votre lit à Marseille, il y avait un poster de Gérard Philippe et un autre de Karl Marx. Et vous êtes même demandé à un moment donné, ce que vous racontez, lequel des deux vous vouliez être, et puis finalement vous avez choisi, ce serait plutôt Gérard Philippe. Mais qu'est-ce qui vous a fait hésiter? Qu'est-ce qui aurait pu vous faire peut-être choisir plutôt la voix de Karl Marx?
Tout simplement, j'avais l'impression que Karl Marx, comme tous les philosophes, il y croyait à ce qu'il écrivait. Et que si jamais il s'était trompé, c'était trop tard. Que Gérard Philippe, au contraire, jouait. Et que c'était plus souple, plus libre. Et qu'au fond, il ne croyait pas à ce qu'il disait. Il s'amusait à faire croire qu'il le croyait. Et cette élégance, cette souplesse devant les choses m'a paru souhaitable, plus souhaitable peut-être que l'autre. Ça n'empêche pas qu'il n'y a pas d'art sans pensée. Mais la différence entre un philosophe et, par exemple, un homme de théâtre, c'est que, prenons Shakespeare, par exemple, et je ne sais pas, Spinoza. Eh bien, Spinoza n'écrit que des monologues. Shakespeare, non. Il s'amuse, il donne la parole à d'autres. Et puis ensuite, comme je viens de le dire, il y croit, Spinoza, alors que Shakespeare, vous ne pouvez pas dire qu'il croit vraiment ce que dit Hamlet, ou ce que dit Gertrude, ou ce que dit Claudius. Débrouillez-vous avec ça. J'ai trouvé ça plus large, plus fort, plus ouvert.
Peut-être plus révolutionnaire aussi, parce que vous dites.
Sans doute plus révolutionnaire.
Oui, celui d'ailleurs, est-ce que celui qui y croit et n'est peut-être pas, même s'il se réclame de la révolution, en dernière instance, comme on disait chez les révolutionnaires, moins subversif que celui qui introduit du jeu, justement,
absolument,
dans la vie et dans la société?
Absolument. C'est ce que je voulais dire. C'est le jeu qui est révolutionnaire. J'entendais, tout à l'heure, là tout de suite, Aurélie Filippetti, dire que l'art et la révolution, la culture et la révolution allaient de pair. Je suis évidemment d'accord. Mais, au fond, J'ai un peu l'impression, quant à moi, et je ne dis pas ça, je crois, de manière corporatiste, bien sûr, mais je crois que ce qui est le plus révolutionnaire, c'est pas la révolution, c'est la culture. En ce moment, je participe à une mise en scène, en plus de celle d'Avignon que vous avez signalée, devant les châteaux de Grignan, de Lorenzaccio, d'Alfred de Musset. Comme vous le savez, Lorenzo de Médicis finit par tuer le duc Alexandre de Médicis. Ça, c'est une révolution. Il y a un coup d'État. Mais celui qui remplace Alexandre de Médicis, c'est son cousin, Côme de Médicis. C'est-à-dire qu'en fait, même les révolutions ne changent pas le monde. La culture, oui.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Nathalie Hennick ?
Eh ben non, justement. Ah. Non. Je comprends tout à fait qu'on ait le désir que deux valeurs auxquelles nous adhérons, qui sont, disons, l'art ou la culture d'un côté, et puis le progressisme de l'autre, pour éviter le mot révolution qui peut être un peu clivant, on a évidemment le désir que des valeurs auxquelles nous adhérons aillent de pair, hein, et se confortent l'une l'autre. Je comprends tout à fait ce désir, mais il se trouve que si on regarde ce qui s'est passé réellement dans l'histoire de notre culture, et là je parle plutôt de la culture française et européenne, mais disons essentiellement française, c'est que le fait qu'aille ensemble une action révolutionnaire en politique et une action authentiquement novatrice, donc révolutionnaire en art, est un fait extrêmement exceptionnel qui n'a existé quasiment que deux fois dans l'histoire, au moment du mouvement surréaliste pendant très peu de temps et au mouvement du mouvement suprématiste en Russie pendant très peu de temps également. Ce qui se comprend parfaitement du fait que les mouvements révolutionnaires en politique sont des mouvements qui impliquent le peuple, le prolétariat, et donc des catégories qui ne sont pas très acculturées et qui du coup ne sont pas très sensibles aux avant-gardes, parce que ce à quoi elles sont sensibles, c'est à ce qu'elles connaissent, et que en revanche les créateurs novateurs à l'avant-garde sont de fait forcément dans une forme d'élitisme, parce que pour pouvoir innover, il faut pouvoir parler à un petit nombre de gens qui puissent comprendre ce qu'on fait. Et donc, du même coup, l'innovation, la révolution artistique est en général constitutive d'une forme d'élitisme et donc ne va pas du tout de pair avec la révolution politique.
Alors là, j'aimerais bien qu'on entendait Aurélie Filippetti et Daniel Metzger sur cette idée que les révolutions dans le domaine de l'art seraient des révolutions de l'élite, contrairement aux révolutions politiques qui sont davantage des révolutions du peuple. Aurélie Filippetti.
Le processus créatif lui-même, c'est un processus qui, c'est vrai, est assez exclusif. L'artiste, c'est quelqu'un qui est un peu en dehors, par définition, dans une position un peu élitiste. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne s'adresse pas au plus grand nombre. Si on prend les grands artistes révolutionnaires, ils avaient bien le but de changer le monde en changeant la vision qu'ils donnaient de ce monde. Et même si ce n'était pas un changement immédiat, Van Gogh ou Manet, enfin, si ce n'était pas un changement immédiat, ils avaient la conscience forte que leur vision allait transformer à moyen ou à long terme, finalement, le monde. Donc, un processus créatif qui, certes, lui, est élitiste, au sens où l'artiste est un être exceptionnel et à part, mais dans sa diffusion et dans son impact, avec une volonté qui, à mon sens, est profondément populaire et profondément révolutionnaire, au sens où le but, c'est bien d'amener une transformation du regard sur le monde. Alors après, est-ce que c'est plus efficace, plus pérenne, plus durable qu'une révolution politique. Là, on entre dans un autre sujet, à mon avis. Mais en tout cas, pour moi, la dimension, même si l'artiste se pose lui-même comme quelqu'un de conservateur, par exemple, du point de vue politique, son désir profond d'amener quelque chose de nouveau en matière esthétique, lui, n'est pas conservateur. Lui est révolutionnaire.
Daniel Mesguich.
Oui, je ne parlais pas de révolution en art qui aurait accompagné la révolution sociale ou politique. Je parlais de la culture en général. La culture en général, c'est ce qui se transforme lentement, je le reconnais, mais ce qui transforme durablement les choses. Au contraire, une révolution, ça peut se recouvrir. C'est simplement ça que je disais. Je ne disais pas qu'il fallait absolument que tel mouvement révolutionnaire soit accompagné d'un mouvement révolutionnaire artistique. Oui, je pense que l'élite... Évidemment, tout artiste est élitiste. Ça n'existe pas, l'art populaire. J'ai une immense admiration pour Jean Villard, bien sûr, mais sa notion de théâtre populaire, au même titre que le théâtre, que l'eau, le gaz et l'électricité, hein, selon la formule consacrée, est souhaitable, elle est magnifique, mais elle n'est pas tout à fait vraie, à mon sens, et je le dis encore une fois avec la plus grande admiration pour Jean Villard, parce que l'eau, le gaz, l'électricité, ce sont des choses univoques, bien connues, on sait à quoi ça sert, et il n'y a pas à discuter. En revanche, le théâtre ou l'art en général, c'est beaucoup plus compliqué. Il me semble que ça, bien sûr que ça attrape d'abord quelque chose d'élitiste, mais là encore, élitiste relativement. Le grand philosophe Jacques Derrida, par exemple, un jour avait signalé qu'une grande maison d'édition avait souhaité publier tout Nietzsche, l'œuvre intégrale du philosophe Nietzsche. Et en raclant les fonds de tiroir, on avait trouvé des bouts de papier, et sur les bouts de papier, il y avait écrit à un moment « J'ai oublié mon parapluie ». Alors la question se posait, au-delà de tout freudisme, la question se posait, que fait-on de cette phrase ? Est-ce qu'on l'édite ? Elle est de Nietzsche, d'accord, mais enfin, n'importe qui pourrait la dire. Elle n'est pas de Nietzsche, vraiment. Et Derrida signalait que peut-être c'était la seule qui était vraiment de Nietzsche. Parce que quand on écrit Zarathoustra, ainsi par les Zarathoustra, ou je ne sais pas, telle ou telle autre œuvre, eh bien, on s'adresse à tout le monde. On essaie de parler la langue commune, même de manière difficile, mais la langue commune. En revanche, j'ai oublié mon parapluie, ça c'est propre, c'est bien à lui, c'est que à lui. Et peut-être que c'était ça, le véritable Nietzsche. Je dis ça pour dire que tout poète, un poète maudit par exemple, ce qu'on appelle un poète maudit, Baudelaire, Verlaine, sont des gens qui bien sûr sont très singuliers, sont minoritaires. Mais leur façon d'être minoritaire reste quand même un petit peu majoritaire, pactise avec le majoritaire. Sinon, ils ne feraient que hurler, que crier comme un bébé, comme soi-même dans un autisme total, et finalement on n'en parlerait même pas. Il faut donc qu'il y ait quelque chose qui pactise avec le populaire, même dans le plus grand élitisme. L'élitisme, ça permet, je crois, de commencer quelque chose. Et par cercle excentrique, ça finit par atteindre beaucoup de monde. Mais il ne faut pas viser le populaire immédiatement. Sinon, par définition, on a perdu, on se dilue dans ce qu'on appelle le public. Et le public dans l'État, où est le public, c'est évidemment foutu. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Un livre de cinquième est élitiste par rapport à un livre de sixième. N'importe quel élève de sixième dit ben « non, ça c'est élitiste ». Mais il y a des gens qui devraient accompagner l'élève de sixième jusqu'à ce que le livre de cinquième ne soit plus élitiste.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on rôde depuis le début autour d'un malentendu, comme toujours, sur ces questions-là. C'est-à-dire qu'on est quand même sur l'idée que la révolution artistique devrait accompagner ou motiver ou pousser ou nourrir une révolution politique, comme si donc elle devait être l'instrument, conception instrumentalisatrice, de l'art. Or, en fait, on était parti, si j'ai cité Jacques Rancière au tout début, c'est parce que Rancière dit très bien, par exemple, que la littérature, son geste politique, c'est pas de dire il faut changer le monde, ou même de faire la révolution à l'intérieur de la littérature. C'est par l'art en tant que tel, à même la vie, de redisposer les choses, la façon dont les corps
se
disposent, la frontière entre le cri et la parole, entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Vous avez dit, j'ai oublié mon parapluie, peut-être que c'est une phrase plus révolutionnaire que certains fragments de Nietzsche, peut-être même que, vous savez, on a cité de Bouba tout à l'heure quand il dit « quand je traîne en bas chez toi », on l'avait cité l'année dernière, « quand je traîne en bas chez toi,
aussi, je crois.
Je fais chuter le prix de l'immobilier ». Vous voyez, un rappeur qui dit « quand je traîne en pas de chez toi, je fais chuter le prix de l'immobilier ». Bon, c'est pas la révolution dans l'art, c'est même pas forcément une révolution dans le texte, mais ça dit quelque chose de très fort qui vient tout d'un coup se télescoper un certain imaginaire qui est le nôtre.
Ce sont les retombées radioactives de l'art qui sont révolutionnaires, pas l'art directement, bien sûr.
Nathalie Hennick.
Oui, je pense qu'il faut, sur cette question qui est très compliquée, je pense qu'il faut distinguer soigneusement un registre d'énonciation qui est de l'ordre de l'optatif, de ce qu'on souhaite, et puis un registre qui est de l'ordre de la description de ce qui est. Et moi, en tant que chercheur, évidemment, je suis dans le second registre, et j'entends parfaitement le premier, mais j'essaye de me tenir au second. Et si on est dans ce second registre, on s'aperçoit que quand on ne peut pas parler de la culture, parce que déjà, quand on dit la culture, on referme la question que j'essaye d'ouvrir ici, à savoir cette distorsion, cette dissonance, ce décalage entre les attentes de création et d'innovation des créateurs et les attentes de partage d'une culture relativement connue de la part, disons, du grand public. Et c'est une question d'autant plus importante qu'elle taraude le ministère de la Culture. Alors, la culture, c'est un terme administratif qui a son sens dans une institution administrative comme le ministère de la Culture, mais si on s'en tient là, on ne peut absolument pas comprendre la difficulté constitutive de tout ministère de la Culture, à savoir comment concilier les intérêts des créateurs les plus innovants pour favoriser l'avant-garde, les œuvres les plus créatrices, etc., ce qui est une des missions du ministère de la Culture, et comment, en même temps, amener à ces œuvres-là un public relativement défavorisé, en tout cas moins favorisé que le public qui y vient spontanément.
Mais c'est peut-être, Nathalie Hennig, qu'une question de temps, c'est ce qui expliquait un peu
non,
Daniel
Mesguich,
c'est-à-dire qu'on commence
parce que
par l'élite et ensuite ça se diffuse
ça,
petit à petit.
Ça encore, je pense que c'est un vœu pieux, parce que ce qui se passe lorsqu'on observe l'histoire du ministère de la Culture depuis maintenant plus de 35 ans, c'est-à-dire, disons, depuis que la gauche est arrivée au pouvoir et depuis donc qu'elle a pris en charge cette volonté de porter la création novatrice, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Bon, et donc du même coup, de concilier ces deux inconciliables. J'ajoute la mission de protection du patrimoine, qui est la troisième mission du ministère, dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais il ne faut pas l'oublier. Bon, et ce qui se passe en fait, c'est que le décalage, c'est aggravé. C'est-à-dire que on voit que malgré tous les efforts, la question de la démocratisation des publics n'a bénéficié que de toutes petites avancées qui sont sans commune mesure avec les énormes efforts qui ont été déployés. Et on voit que, sous couvert très souvent de militer pour la culture, plus d'argent pour la culture, en fait, on milite pour plus d'argent pour les créateurs, ce qui peut être tout à fait concevable et appréciable. Le problème, c'est que c'est absolument antinomique du plus d'argent pour la démocratisation. Et c'est une contradiction dans laquelle le ministère se débat depuis plus de 35 ans, et je persiste à penser qu'il faut la prendre au sérieux et ne pas essayer de la recouvrir avec des grandes paroles qui nous font extrêmement plaisir, mais qui ne nous aident pas vraiment, me semble-t-il, à comprendre ce dont il est question.
Alors, profitons justement d'avoir quelqu'un qui est passé pendant plus de deux années au ministère de la Culture pour savoir, vous, comment Aurélie Filippetti, d'abord, est-ce que vous avez fait ce constat de cette contradiction, en tout cas peut-être de cette antinomie entre une logique qui consiste à soutenir la création et une logique qui serait plus une logique de diffusion au plus grand nombre? Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps, ou bien est-ce qu'il faut forcément choisir l'une ou l'autre de ces logiques?
Non, ça va évidemment ensemble. D'un côté, il y a le soutien à l'art, à la création, et donc aussi aux artistes. Bon, l'art n'a pas, à la limite, l'art n'a pas besoin de politique culturelle, c'est-à-dire l'art peut exister, un artiste existe. Bon, mais l'artiste, lui, a besoin de conditions d'existence et de travail qui soient les meilleures possibles. Donc, le rôle du ministère de la Culture, en partie, c'est d'accompagner justement les conditions de travail et de création des artistes. Mais de l'autre côté, il y a la diffusion, et les deux vont de pair. Quand on dit, et c'est devenu un peu un topos de dire, il y a un échec de la démocratisation culturelle. C'est en partie faux. Ce qu'on rencontre quand même dans l'ensemble de nos théâtres, dans l'ensemble de nos centres dramatiques nationaux, des scènes nationales, etc., ce sont des salles pleines et du monde dans les théâtres et de formidables expériences partout en France, et pas seulement limitées à Paris ou dans quelques quartiers parisiens, mais absolument partout en France, des expériences de transmission, d'éducation artistique avec des plus jeunes, d'accès à la culture dans différents types de milieux, hôpitaux, entreprises, formations professionnelles, ça existe partout. Maintenant, évidemment, et j'en étais la première désolée, ce n'est jamais assez. Et on peut toujours aller plus loin, il faut toujours aller chercher de nouveaux publics. Et on ne peut pas se satisfaire, bien sûr, d'un statu quo en cette matière. Donc, ce travail, il est infinie pour aller justement toujours amener vers la culture de nouveaux publics. Mais néanmoins, on ne peut pas dire que ce soit un échec. Et d'ailleurs, ce qui a été aussi le propre et la grande réussite des années Jack Lang, c'était de savoir très bien tenir ces deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire à la fois une vraie politique de soutien aux artistes dans ce qu'ils avaient de plus novateur, de plus subversif, et en même temps un vrai succès en termes de culture populaire et d'accès de tous à la culture et de démocratisation de la culture. Donc vraiment, pour moi, c'est pas du tout antinomique, bien au contraire.
Est-ce qu'une des grandes révolutions qui aurait amené, là, pour le coup, dans certaines élites politiques, intellectuelles et médiatiques, ce serait pas justement de rompre avec une sorte de poujadisme un peu bizarre qui fait que souvent, dans ces élites intellectuelles, médiatiques et politiques, on est persuadé que, effectivement, les gens ne veulent pas de culture, ou alors qu'ils n'ont pas accès à la culture, ou alors même qu'ils veulent ce qu'il y a de plus bas de gamme en termes culturels. Très souvent, on a cette figure, vous savez, des fameux vrais gens, les vrais gens, voilà ce qu'ils veulent, etc. Partout, on entend, les vrais gens ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas de ce qui est trop exigeant, de ce qui est trop beau, de ce qui est trop fort, de ce qui est trop compliqué, trop élaboré. Alors que, comme vous le dites, partout où il y a des choses très belles, y compris parfois extrêmement complexes et élaborées, eh bien, les salles sont pleines, et souvent, pour le meilleur.
Oui, moi j'ai un souvenir qui m'avait beaucoup ému. J'avais inauguré une commande publique à Delme, donc une petite commune rurale de Lorraine. Et c'était une commande publique faite par deux artistes, designers, qui avaient installé une œuvre d'art contemporain dans cette petite commune. Et il y a une dame qui est venue me voir en me disant « Ah, mais vraiment, on est content d'avoir cette œuvre, parce que vous comprenez, nous, on n'est pas des ploucs, on a aussi droit à l'art contemporain. » Et voilà, je trouve qu'aujourd'hui, notamment si on parle d'art contemporain, il y a une vraie attente, il y a un vrai besoin, il y a une vraie curiosité d'énormément de gens vis-à-vis de cela qui ne font pas partie d'une élite bourgeoise, simplement. Alors après, on peut dire, oui, bah finalement, c'est une contamination de la culture des classes dominantes vers les classes plus populaires, mais si c'est ça, après tout, tant mieux. Enfin, en tout cas, moi, je considère que cette curiosité-là, c'est l'un des grands succès de la politique culturelle française, quand même, de sa pérennité sur plusieurs décennies maintenant. C'est-à-dire que il y a une appétence chez les Français pour la culture et pour ce qu'il y a même de plus surprenant, de plus moderne, de plus nouveau dans la culture.
Daniel Mesguich, si et bien entendu le public du théâtre, en tout cas des pour les formes d'art contemporaines, n'est pas exclusivement constitué de cette élite bourgeoise intellectuelle, appelons-la comme ça, c'est quand même sans doute le public dominant. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour vous à Avignon, mais quand on va dans un certain nombre de théâtres, de scènes nationales en banlieue à la périphérie de Paris, on recroise quand même globalement, en général, à peu près le même type de public. Donc certes, il y a de la démocratisation, il y a des nouveaux publics qui arrivent, enfin, n'arrivent pas non plus en masse.
Oui, mais il ne faut pas mélanger deux choses. L'une qui est ce qu'on fait, que font les créateurs en question, et l'autre qui est les structures d'accueil ou de publicité, de commerce peut-être même, qui sous-tendent tout ça. Moi, je crois que Malraux, par exemple, a fait un coup génial quand il a inventé son ministère de la Culture, et en tout cas en ce qui concerne le théâtre, avec sa secrétaire d'État, Jeanne Laurent, c'est de donner l'argent de tous, l'argent issu de l'impôt, à quelques-uns seulement. Alors on pourrait dire, mais attendez, c'est pas du tout la République, ça. Sauf que ces quelques-uns rendaient, en quelque sorte, l'argent par leur travail, à tout le monde. Alors, que veut dire tout le monde? Bien sûr, c'est un souhait, c'est un vœu pieux, etc., bien sûr. Les subventions servent à ça. Les subventions ne subventionnent pas, ou très indirectement, les créateurs. Elles subventionnent qui? Le public. Si je monte, par exemple, un Shakespeare, vous parliez de Shakespeare tout à l'heure. Un Shakespeare, ça a une vingtaine d'acteurs à peu près. Hein. Mettons 15, on le fait à l'économie. 15 acteurs, on répète 2 mois, donc il y a des salaires, des charges sociales pendant 2 mois. Il y a quelques costumes, pas forcément chers, mais quelques costumes, quelques décors, pas forcément chers non plus. Un peu de lumière, etc. Eh bien, très vite, vous avez une somme astronomique. Et maintenant, si vous voulez jouer 1 mois, par exemple, devant un public, même une salle de 800 places, il faut mettre la place à 150, 200 euros. La subvention permet de jouer Shakespeare. On ne peut pas jouer Shakespeare sans subvention. Alors après, c'est une question politique. Est-ce que tel État, en l'occurrence en France, notre gouvernement, accepte, veut ou ne veut pas qu'on joue du Shakespeare. On peut aussi jouer des one-man show en pagaille, il y en a partout là. Ou des pièces à deux personnages. Mais si on doit jouer un grand spectacle, il faut de l'argent public, c'est obligatoire. Encore une fois, c'est pour le rendre cet argent, ça n'est pas pour le garder en quelque sorte.
C'est obligatoire, mais ça ne suffit pas pour autant à faire venir un public plus diversifié.
C'est encore autre chose, c'est encore autre chose. Mais déjà, le prix des places très faible, ça c'est une démocratisation. Moi, un jour, j'étais à Lyon, au théâtre de la Croix-Rousse, pour ceux qui connaîtraient, et je montais Bérénice. Et puis j'avais déjà vu beaucoup Bérénice, et j'en avais un peu marre, donc je suis sorti. Ce théâtre, à l'époque, était dans une espèce de no man's land, où il y avait des gravats, des pelleteuses, des papiers gras, enfin c'était tout sale, il y avait un chantier. Et puis il y avait un car qui a déversé de pauvres jeunes gens de 12 ans, 15 ans, pour voir Bérénice, et évidemment ils s'ennuyaient à mourir, et il y en avait un même qui était devant moi et qui avait gardé son Walkman sur les oreilles. Donc il regardait le spectacle tout en écoutant du rap. Et puis à un moment il est sorti. Et comme j'étais aussi dehors, j'étais sorti moi-même, je lui ai dit, t'es sorti, c'est dommage. Et il me dit, oh monsieur, moi je suis un révolté, moi, je fais pas comme les autres, je désobéis, je n'aime pas regarder ce truc-là. Et je lui dis, bah non, t'es pas un révolté, t'es au contraire un obéissant. Parce que si il y avait une chance sur un milliard que toi, tu sois devant Bérénice de Jean Racine, cette chance a eu lieu, mais tu n'as pas pu et tu es retourné immédiatement vers ce qui t'avait programmé, c'est-à-dire les pelleteuses, les papiers gras et le No Man's Land.
C'est un peu votre petit frère d'ailleurs, parce que vous-même vous avez oublié d'éteindre votre téléphone portable.
Je suis désolé. Et donc il est retourné au théâtre. Je pense que ce qui caractérise cette chose-là, c'est cet art qui serait révolutionnaire, pas révolutionnaire, populaire, pas populaire, etc. C'est précisément que c'est comme une question de chance. Il y a la chance d'accompagner, d'être présent, d'être témoin à ce moment-là de telle chose. C'est tout. C'est simplement ça. Mais c'est énorme.
Nathalie Henné, qui a une forme a priori d'unanimité pour dire qu'au moins l'objectif, même si c'est un vœu pieux, ce serait celui d'élargir au maximum, de démocratiser au maximum l'accès à la culture. Mais vous qui aimez bien remettre en cause les postulats de départ, est-ce que c'est un postulat que vous remettriez également en cause? Est-ce qu'il faut absolument tout faire pour que les gens accèdent à la culture et à une culture qui soit peut-être parfois un peu plus savante, ou bien ce qui est un droit n'est pas forcément, à vos yeux, une obligation?
Je pense que c'est une obligation d'État. C'est pas une obligation ni des théâtres privés, ni des structures privées qui font ce qu'elles veulent, mais.
Et pour les individus,
c'est une mission. Non, pas du tout. Ils ont absolument le choix, mais encore faut-il qu'on leur donne le choix. C'est-à-dire qu'on leur donne la possibilité de savoir qu'il existe des choses intéressantes. Donc, je pense que c'est vraiment une mission régalienne de l'État que d'organiser la démocratisation. Et à ce propos, je vais raconter une toute petite anecdote très rapide. À la fin des années 80, un de mes collègues sociologues qui s'occupait de l'enquête pratique culturelle des Français, c'est une grande enquête faite tous les 7 ans, avec un énorme échantillon, etc., pour savoir qui exactement va au musée, va au théâtre, au spectacle, etc., etc. Et il a donc délivré les résultats de la dernière enquête. C'était donc la première fois que cette enquête était faite du temps du ministère Jacques Lang, de fin des années 80. Et il a failli se faire virer. Heureusement, il est fonctionnaire. Mais il a failli se faire virer parce que le ministre était furieux du fait que les résultats n'étaient pas à la hauteur de ses attentes, c'est-à-dire que les points en pourcentage gagnés pour la fréquentation des ouvriers, des employés, des classes moyennes, dans les théâtres, l'opéra, les musées, etc., étaient dérisoires, en tout cas bien plus faibles que ce que le ministre pouvait espérer. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de progrès, heureusement qu'il y a, parce qu'il y a un maillage beaucoup plus important, notamment au niveau territorial, donc il y a forcément un progrès, mais disons que le progrès n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, et la principale raison, c'est qu'on a trop eu tendance, pendant ces 35 ans, de politique culturelle organisée autour de l'idée qu'il faut à la fois aider la création avant-gardiste et démocratiser la culture, on a trop eu tendance à penser que c'est en augmentant l'offre qu'on allait mécaniquement augmenter la demande. Or, en augmentant l'offre, on a évidemment des salles souvent pleines, mais c'est des salles pleines de gens qui sont issus des mêmes catégories socio-professionnelles. On a plus de spectateurs, on a plus de visiteurs du musée, etc., mais on n'a pas forcément plus d'ouvriers, d'employés, de classe moyenne dans les musées et dans les théâtres.
Et en même temps, Nathalie Yannick, ce qui m'intrigue, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait travaillé avec Bourdieu, qui avait été dissidente et critique de Bourdieu, et là vous avez l'air de reprendre un peu sa catégorie de classe sociale comme si elle était cohérente, alors que quelqu'un qui a travaillé sur les mêmes enquêtes dont vous parlez sur les pratiques culturelles des Français, qui est Bernard Lahire, qui a lui aussi travaillé avec Bourdieu, lui aussi était un dissident de Pierre Bourdieu, eh bien, a montré que les choses étaient beaucoup plus compliquées, que ce n'était pas des séparations entre classes sociales du point de vue des goûts et des pratiques culturelles, que les partages passaient à l'intérieur d'un même individu, qu'on pouvait écouter à la fois de l'opéra et chez RFM, qu'on pouvait aimer un Godard et un Nanar. Et il y a plein de personnages dans les livres de Bernard Lahire qui montrent que le partage du point de vue culturel ne passe pas.
Oui, c'est un grand débat parmi les sociologues de la culture, mais on ne va pas entrer là-dedans parce que c'est un peu technique, c'est à la fois des problèmes de méthode et des problèmes de concept, mais disons que la description de la façon dont les gens se situent par rapport à la culture doit en effet intégrer le fait qu'ils ont une sorte de pluralisme, on appelle ça un omnivorisme, ils dévorent un peu de tout, mais le problème c'est que la mission de l'État, ça n'est pas de faire consommer les choses que les gens consomment déjà, comme le rap, la télévision, les séries, etc., parce que c'est pas une mission de démocratisation. En matière d'industrie culturelle, la démocratisation, elle est de fait déjà là. La mission de l'État, c'est de faire aimer et apprécier des choses qui ne vont pas de soi pour des gens issus des milieux populaires. Donc, ça, je pense que cette conception d'une culture beaucoup plus souple, disons, que ce que Bourdieu avait mis en place, n'empêche absolument pas de continuer à exiger que l'État ait une mission de démocratisation. Et je reviens sur cette histoire de l'offre, l'offre ne permet une plus grande répartition des spectateurs sur le territoire, mais ne permet mais pas forcément une démocratisation si ce n'est à la marge. Et pourquoi ? Parce que ce sur quoi il faut travailler, c'est sur la demande et non pas sur l'offre. Et ce qui a cruellement manqué à l'action du ministère, me semble-t-il, c'est premièrement une véritable action auprès des télévisions. Il est totalement anormal que les télévisions publiques n'aient pas un cahier des charges suffisamment contraignant pour les obliger à diffuser des œuvres culturelles de haut niveau à des heures de grande écoute, premièrement. Et deuxièmement, le ministère de la Culture n'a pas pu, pour toutes sortes de raisons, avoir l'action qu'il aurait dû avoir sur l'éducation nationale, où là se forme la demande en matière de culture, et il est totalement anormal que l'éducation nationale ne profite pas du formidable maillage culturel de notre territoire pour permettre à des jeunes de tous les milieux, et notamment des milieux défavorisés, de pouvoir visiter régulièrement des musées, des théâtres, etc. Et là, je pense qu'il y a eu une grande carence d'analyse. On a tout misé sur l'offre aussi parce que les créateurs qui, eux, se font entendre à la différence des noms publics et à la différence des pierres, évidemment, ont tout intérêt à ce qu'on développe l'offre, mais développer la demande, là, il n'y a pas de porte-parole pour ça. Et du coup, c'est vraiment le chantier qui a été laissé, à mon avis, beaucoup trop en friche.
Alors, on va aller justement sur ce terrain de l'éducation nationale. Mais avant cela, Aurélie Filippetti, si vous permettez qu'on aille peut-être sur un terrain un peu plus personnel, puisqu'on parlait des classes populaires. Vous êtes issu d'un milieu populaire. Vous en avez fait même un roman dont le titre m'échappe et que vous allez nous rappeler.
Les derniers jours de la classe ouvrière.
Voilà, les derniers jours de la classe ouvrière. Est-ce que vous pouvez peut-être juste brièvement mais nous raconter aussi comment s'est passé, vous, votre acculturation et votre rapport, non mais votre rapport aux formes culturelles, c'est-à-dire comment, mais quand on est issu d'un milieu ouvrier, comment est-ce que finalement on devient un jour ministre de la culture? Ce qui est peut-être aussi le contre-exemple de ce qu'on est en train de dire.
Bah, vous voyez, par exemple, j'ai un souvenir très précis, c'est que quand j'étais ado, je n'allais évidemment pas au Festival d'Avignon, mais il y avait sur Arte la retransmission de Souliers de Satin en X morceaux, et j'avais enregistré avec le magnétoscope de mes parents le Soulier de Satin mis en scène par Antoine Vitez avec Ludmila Mikel, etc. Et donc j'avais regardé ça grâce à la télévision, grâce à Arte. Donc c'était la télévision peut être un moyen aussi, et comme on est sur France Culture, il faut quand même aussi rendre hommage à France Culture. On est quand même l'un des seuls pays au monde où il y a une radio comme ça qui fait partie de l'audiovisuel public. Donc voilà. Mais sinon, pour Pour un petit peu compléter aussi ce que disait Nathalie Hennig tout à l'heure, le rôle du ministère, c'est aussi de montrer qu'il n'y a pas une culture, je dirais, dominante, légitime, noble, et puis une culture qui serait une culture inférieure, populaire, etc. L'un des grands apports, encore de Jack Lang, mais c'est quand même d'avoir su montrer que certaines formes culturelles. Alors maintenant, on en parle, par exemple, on parle du hip-hop ou du graff, etc., avec presque un retour de bâton. C'est presque, bah oui, mais il ne faut pas cantonner les jeunes des quartiers au hip-hop ou au graff. Certes, mais quand même, le fait d'avoir donné une reconnaissance institutionnelle à ce type d'expression artistique, c'était quand même très important aussi. Et ça ne veut pas dire qu'on doive les limiter à certains publics, mais bien au contraire que tout le monde doit y avoir accès et que en tout cas si on écoute parfois qu'on voit des par exemple je pense au festival de danse hip-hop de Suresnes qui est absolument formidable où on a un public qui est extrêmement mélangé. Ça peut être à la fois un public très branché mais aussi très populaire avec des jeunes des quartiers et ça c'est formidable justement d'avoir ces publics mêlés pour toute forme d'expression artistique que ce soit effectivement du théâtre classique ou du théâtre contemporain, des différentes formes de danse ou de musique. Après, sur l'offre, pour développer l'offre, et là je suis bien d'accord, il y a aussi un problème économique qui est très difficile à gérer pour le ministère de la Culture, c'est que effectivement avec l'économie qu'on a de la création, on sait que les œuvres créées, que ce soit les théâtres, a fortiori l'opéra, les œuvres chorégraphiques, elles sont jouées en moyenne 7 fois. 7 fois. Et ça donne donc accès en priorité à un public d'abonnés ou de gens qui sont informés. Donc, le défi majeur, c'est de savoir comment on fait pour diffuser plus des œuvres qui sont créées. Alors, ça, si on parle par exemple d'opéra, c'est extrêmement compliqué parce que une création d'opéra, ça coûte très cher et les artistes ne peuvent pas jouer 20 fois ou 30 fois. Ils ont un agenda très contraint. Mais il y a certaines formes maintenant un peu innovantes. Je pense à ce qu'essaye de faire Olivier Monteil à l'opéra comique, enfin, où ils essayent d'inventer des nouveaux modèles économiques qui nous permettraient de diffuser plus longtemps des œuvres créées. Ainsi, pour aller chercher des publics qui ne sont pas uniquement des publics d'abonnés. Je crois que ça, c'est l'un des grands défis.
Il y a la question des publics, la question de la reconnaissance des arts dits populaires, la question de la présence des classes populaires ou dites populaires dans les salles de spectacle, par exemple. Il y a aussi la question, Daniel Mesguich, de la présence des classes populaires sur scène, la représentation des classes populaires sur scène. Vous vous souvenez de cette... Et ça, il y en a de plus en plus, des très beaux spectacles qui prennent en charge cette parole-là et ces paroles-là sur scène. Vous vous souvenez notamment de ce spectacle qui s'appelait À plat de couture, qui est passé à Avignon après la Maison des Métallos, et qui mettait en scène la voix des ouvrières de Le Jabi, vous savez, c'est cette usine de sous-vêtements qui avait déposé le bilan. Donc Daniel Mesguich, de ce point de vue aussi, il se passe des choses.
Oui, et je ne peux que saluer ce genre de choses, bien sûr, mais en même temps, j'ai envie de dire, la culture, c'est pas sociologique, c'est autre chose. L'art, en tout cas, disons l'art, n'est pas sociologique. Que des ouvrières aient joué un tel spectacle, tant mieux, très bien, formidable, il faudrait multiplier ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas que les meilleurs artistes sont encore les artistes pour faire de l'art. Vous voyez ? C'est-à-dire que je ne dis pas ça pour m'enfermer dans je ne sais quel tour d'ivoire ou de corporatiste ou je ne sais quoi, mais pour dire simplement que si on recherche la qualité, si c'est la qualité qu'on veut offrir, non pas en s'adressant directement, encore une fois, aux gens, ça c'est perdu d'avance, indirectement aux gens. On s'adresse à personne, on ouvre ça, et les gens viennent ou pas. S'ils viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, c'est bien dommage. Qu'il y ait des activités qui consistent à faire que les gens viennent, tant mieux aussi. Mais je vous entendais, madame, par exemple, dire il faudrait développer l'offre. Alors là, pour le
non,
coup...
c'est le contraire.
Ah, c'est le contraire.
Ah non, c'est la demande qu'il faut développer. L'offre,
pardon, la demande, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Eh bien, je vous entendais dire il faut développer la demande, mais là, pardonnez-moi, mais c'est, pour moi, c'est ça, un vœu pieux. Développer la demande. Qu'est-ce que vous entendez par là? Un jour, il y a quelqu'un qui m'avait dit, j'étais enfin bon, bref, je dirige un théâtre et le patron du département me dit Daniel, on ne peut plus subventionner de la même manière, on va baisser la subvention, mais s'il y a une forte demande populaire, on te redonnera les sous qui manquent. Qu'est-ce qu'il imaginait? Que des gens allaient se promener dans la rue en disant nous voulons absolument Hamlet de Shakespeare avec des banderoles? Bien sûr que non. Ça veut dire quoi développer la demande? Ça voudrait dire faire plus de pubs, plus de... Ça veut dire quoi?
Non, ça veut dire par exemple ce que vous avez raconté tout à l'heure qui était remarquable, ce jeune garçon qui écoutait du rap pendant Bérénice.
Une personne.
Mais ce que je veux dire, c'est que premièrement, il a eu accès à une possibilité de découvrir ça, et grâce à vos paroles, il a compris que c'était pas très malin de sa part de continuer à écouter du rap. Il est retourné dans la salle, et tout d'un coup, il a compris qu'il y avait quelque chose à regarder et à écouter. Et c'est ça, ce sont ce type d'actions. Mais je reviens juste sur ce qui a été dit auparavant, sur le problème de ces hiérarchies culturelles entre genres populaires ou non populaires. Et là, je vais revenir aux grands ancêtres de la sociologie, à savoir Bourdieu, dont le livre fondateur en matière de problèmes de démocratisation de l'accès à la culture, c'était L'amour de l'art en 66, mais qui, au même moment, a publié aussi un autre ouvrage collectif intitulé Un art moyen sur les usages sociaux de la photographie, qui montrait que les différents genres culturels n'occupent pas la même place dans la hiérarchie et que de même qu'il y a une inégalité d'accès des publics à la culture, il y a une inégalité dans la légitimité, dans, disons, le caractère plus ou moins chic, noble, etc., des différents genres. Et à partir de ce constat, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire en sorte que les genres mineurs remontent dans la hiérarchie et que le ministère prenne en charge la reconnaissance, la légitimation du rap, de la gastronomie, des séries télé, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette option parce que je pense que ces genres-là, justement, sont déjà des genres très démocratisés et que c'est le problème des créateurs et des amateurs que de savoir où ils se situent dans la hiérarchie de la légitimité. À mon avis, ça ne doit pas être le problème du ministère. Le problème du ministère, ça devrait être d'encourager dans tous les genres, quels qu'ils soient, du plus chic au plus vulgaire, la meilleure qualité. Par exemple, le théâtre de boulevard est un théâtre populaire qui peut être remarquablement bien fait, qui peut avoir une très grande qualité. Je ne pense pas qu'il faille le mépriser a priori parce qu'il est en bas de la hiérarchie des genres. Le rôle d'une mission des pouvoirs publics, ce serait de proposer les meilleures productions de théâtre de boulevard, de même que ce serait aussi de proposer des expositions d'art moderne et pas seulement d'art contemporain, à condition qu'il soit au plus haut niveau de la qualité.
Mais ce serait quel type de soutien pour vous, Nathalie Hennig, c'est-à-dire au théâtre de boulevard, qui est un théâtre qui est du théâtre privé, qui souvent fait le plein, qui n'est pas celui qui a besoin, en tout cas.
Il ne fait pas forcément le plein aujourd'hui, par rapport au théâtre.
D'être aidé financièrement, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que plus la demande est forte, si on va sur un peu le terrain de l'économie, plus la demande est forte, on peut imaginer que plus la demande est forte, plus il va y avoir de public, donc moins il y a de la nécessité, justement, de soutenir peut-être, justement.
Si, parce qu'il peut y avoir la nécessité de soutenir la qualité.
Oui, mais
le problème,
c'est
pas la quantité de public, c'est la qualité des productions, et c'est, encore une fois, la démocratisation, qui n'est pas le problème pour le théâtre de boulevard, évidemment. En revanche, ce qui peut être le problème, c'est que, à force de ne pas être soutenu, le théâtre de boulevard n'est peut-être pas en très bonne forme, et peut disparaître un genre populaire. Je pense aussi à l'opérette, par exemple. Ce sont des genres populaires qui peuvent amener des gens à la culture, et je trouverais dommage de les laisser péricliter simplement parce que on refuserait de prendre en compte des genres jugés vulgaires, disons.
Madame,
oui, mais c'est exactement ce qui se passe. Préciser par exemple que la Comédie française met en scène des Labiche, des Feydeau, avec beaucoup de succès et avec une immense qualité. Enfin, on a le souvenir encore récemment, Un chapeau de paille d'Italie, etc. En ce qui concerne l'opérette, précisément l'opéra comique, c'est son rôle de mettre en scène à un haut niveau de qualité l'opérette et notamment les œuvres françaises. Donc ça se fait d'ores et déjà, et c'est bien le rôle du ministère que de permettre cet aller-retour entre pour qu'il n'y ait pas justement de genre qui soit considéré a priori comme noble et de genre qui soit considéré comme non noble, mais bien que ce soit la qualité des productions et des créations qui soit le seul critère, quelle que soit après l'esthétique dans laquelle on s'inscrit. Bien entendu, pour revenir à la question de la demande, ma priorité, quand j'étais au ministère, je l'avais dit tout de suite, c'était l'éducation artistique et culturelle. Pourquoi ? Parce que, évidemment, c'est sur le public des enfants, des jeunes, que l'on peut instiller le goût, l'envie de découvrir des œuvres et cette curiosité vis-à-vis de l'art et de la culture. Donc bien sûr, ça doit se faire en partenariat avec l'éducation nationale. Et l'éducation nationale, en particulier les enseignants, ne sont pas du tout réfractaires, contrairement à ce qu'on entend trop souvent. Les enseignants ne sont pas du tout réfractaires à ça. Ce qui est difficile, c'est d'organiser dans le cadre du temps de travail, en quelque sorte, de l'éducation nationale, c'est d'organiser ces passerelles. Mais il y a des formidables expériences. Je prends par exemple le cas de la Seine-Saint-Denis avec des résidences d'artistes dans des collèges où on a des artistes, par exemple des danseurs qui s'installent pendant une année scolaire dans un établissement. Ils créent, c'est-à-dire ils ne sont pas là pour remplacer l'enseignant, ils ne se transforment pas en enseignant ou en personnel administratif, ils sont là bien en tant qu'artistes et ils travaillent avec les enseignants sur la meilleure manière de d'élaborer un programme conjoint pendant une année. Et ça donne des résultats formidables. Je parle de la Seine-Saint-Denis, je pourrais parler de Biarritz, la compagnie de danse Malandin. Je pourrais parler de Charleville-Mézières avec les spectacles de marionnettes, puisqu'il y a un festival international de marionnettes. Je pourrais parler d'Aurillac, enfin partout en France, et chacun avec sa spécificité.
Mais est-ce que pour respecter la demande, cette demande plus ou moins fantasmatique ou plus ou moins réelle, il ne faut pas soi-même être un peu en demande et avoir du désir pour la culture, pour les arts? Revenons à la question du livre. Vous avez fait allusion tout au début. On a eu un président de la République, François Hollande, qui est passé son temps à dire « moi, je ne lis pas de roman ». Quand on a un président de la République qui dit « je ne lis pas de roman », quelle peut être l'idée qui se fait du rapport de la demande, par exemple, pour la littérature? Et aujourd'hui, vous qui êtes très très critique à l'égard d'Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui se passe, d'intéressant. Puisque pendant très longtemps, quand on s'en remettait à un candidat ou à un président, on s'en remettait à une bibliothèque. Avec De Gaulle, avec Mitterrand, on s'en remettait à une bibliothèque. Après, on a traversé une petite période où il y avait des gens qui pensaient que c'était très très mauvais de passer pour un intellectuel et pour quelqu'un qui lit des livres. Et là, aujourd'hui, on a à nouveau un président qui met en avant son rapport au livre et qui intitule son livre « Révolution ».
Ouais, enfin, comme quoi, ce n'est pas l'apanage de certaines catégories populaires de ne pas avoir un rapport à la culture spontanée, naturelle. Aujourd'hui, c'est exactement ce que dit Bernard Lahire, d'ailleurs. Hein. Aujourd'hui, il y a dans les classes très dominantes de la société un certain nombre de personnes qui disent que ils ne lisent pas de livres, oui, qu'ils ne vont pas voir de films d'art et d'essai, etc., et que ce qu'ils préfèrent, c'est le théâtre de boulevard. Il y a plein de gens qui disent ça alors qu'ils appartiennent entre guillemets à l'élite, et donc c'est une forme de nouvelle trahison des clercs là, à laquelle on assiste.
Et c'est eux qui décident souvent de ce qu'est la demande populaire.
Bah oui, donc voilà. Justement, c'est bien un problème. Et ça a été très justement pointé par Bernard Lahire.
Daniel Mesguich.
Oui, je vous entendais prendre la défense, non pas la défense, mais enfin bon, du théâtre de boulevard.
Du bon théâtre de boulevard.
Oui, mais même bon. Vous savez, nous assistons, parce que là nous parlons comme si tout allait bien, mais vous êtes d'accord que tout va mal, quand même. C'est-à-dire que ça fait bien 15-20 ans que tout s'écroule, qu'il y a de moins en moins de choses intéressantes, que c'est de plus en plus difficile de faire quoi que ce soit. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça. Je sais, ça énerve tout le monde. Bon, alors, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, la vie est belle. Il n'y a pas de décadence. Mais si, mais on le voit bien. On le voit bien sur des milliers de points.
Non, mais quand vous dites tout va mal, c'est quoi au niveau de la production culturelle?
Tout va mal, ça veut dire... Non, pas que du théâtre. Ça veut dire que c'est de plus en plus difficile de faire des choses qui ne soient pas commerciales, qui ne passent pas à la télé. Il y a des mots qu'on ne peut plus entendre, enfin, etc., etc. Bien sûr, enfin bon, bref, je ne vais pas jouer mon Finkielkraut, mais je vous dis simplement que ça va très mal. En revanche, mais je serais d'accord pour dire que ça va très mal. Et donc, peut-être que c'est en train de remonter un petit peu, je ne sais pas, mais en tout cas, ça va très mal, depuis quelques années déjà. Et donc, quand vous dites le théâtre de boulevard, mais n'ayez pas peur, le théâtre de boulevard, il va très bien. Le théâtre de boulevard, par exemple, il cherche quoi? Le moins d'acteurs possible pour faire le plus de recettes possible. Il cherche un public assez aisé pour qu'il paye cher sa place. Il cherche des stars, en principe, vues à la télé, ce serait mieux encore, parce que comme ça marche, etc. Allez proposer dans un théâtre de boulevard n'importe quoi qui sortira un tout petit peu de l'ordinaire, on vous dira non, on vous rira au nez même. Et le problème, c'est que ça commence aussi dans le secteur public. C'est-à-dire que maintenant, les théâtres publics eux-mêmes, par exemple, pour prendre l'exemple des théâtres encore une fois, c'est la partie que je connais le mieux, vont dire, mais vous avez une star? Un peu comme France 2 va chercher, comme TF1, à dire, vous avez une star, on peut faire une chose plus commerciale, etc. Et donc, il y a un petit problème. Depuis tout à l'heure, nous parlons du peuple, des gens, de l'ouverture du maximum de personnes, de la démocratisation de la culture, etc. Et en fait, quelle différence y a-t-il aujourd'hui avec le commercial? Tel yaourt est très populaire, vous voyez. Donc, où est le travail qu'il faudrait faire? qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il y a quelques années, il y a une jeune femme qui avait fait des animations dans un lycée, et puis une jeune fille qui était une élève du lycée lui dit « Mais dites-moi, vous êtes subventionné, mais c'est parce que vous êtes mauvais. Si vous étiez bon, tout le monde viendrait et vous n'auriez pas besoin d'argent public. » Alors elle lui a fait la parabole du couscous de la grand-mère de Laïla. La jeune fille s'appelait Laïla. Elle lui a dit, voilà, ta grand-mère, elle fait du couscous? Oui, répond la petite jeune fille. Il est bon? Il est délicieux, le couscous de ma grand-mère. Tu aimes le couscous Garbit? Quelle horreur, répond la petite fille. Et si on met maintenant couscous de la grand-mère de Laïla et couscous Garbit sur l'étagère du grand magasin, qu'est-ce qu'ils vont acheter les gens? Alors elle baisse la tête et elle dit, oui, couscous Garbit. Effectivement, personne ne va acheter le couscous grand-mère de Laïla. Eh bien, c'est pire. C'est qu'une fois qu'on a mangé beaucoup de couscous Garbit, on peut même ne plus aimer le couscous de la grand-mère de Laïla. C'est ça le problème.
Alors que faites-vous cette parabole, Nathalie Hennick?
Non, je crois qu'on s'est mal compris. Justement, le rôle de l'État, c'est de subventionner ce qu'il y a de mieux en matière culturelle pour éviter que ce soit des logiques commerciales qui l'emportent. Vous décrivez une logique commerciale dominante, justement parce qu'il n'y a pas de subvention d'État pour les aider. Lorsque, comme l'a rappelé Aurélie Filippetti, on monte Labiche ou Feydeau dans les meilleures conditions, là, on fait le mieux de ce que
peut faire l'État. Ça, c'est pas du théâtre de boulevard,
C'est du classique du théâtre de boulevard, excusez-moi, mais c'est le genre du théâtre de boulevard qui est devenu classique.
C'est pas ça qu'on appelle théâtre de boulevard.
Non, mais ne confondons pas le genre théâtral et les institutions que sont les théâtres qui sont sur les grands boulevards. Et donc, justement, ce pourquoi je plaide, c'est que l'État aide la qualité dans tous les genres, y compris les genres mineurs, et pas seulement des genres majeurs, et pas non plus l'idée qu'il va falloir donner à tout le monde, et par exemple donner aux industries culturelles, donner au rap, donner à des propositions culturelles qui peuvent être très intéressantes, mais qui n'ont justement pas besoin de l'État parce qu'elles sont déjà très populaires. Voilà, il faut juste serrer les aides de façon à ce que lorsque la qualité ne doit pas être entravée par des considérations commerciales, l'État soit là pour que justement ce soit la qualité qui prime, c'est tout.
Et cette diversité culturelle, pour vous Aurélie Filippetti, elle doit aussi être proposée au moment de l'école, c'est-à-dire dans le cadre de l'éducation artistique, forcément promouvoir uniquement une certaine forme un peu noble peut-être justement des arts et de la culture.
En tout cas, c'est la qualité qui doit être promue à l'école. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Nathalie Hennick. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour amener les gens vers la qualité, quel que soit ce sur quoi on les fait travailler, et leur permettre d'analyser. Donc, ça implique quoi? Ça implique de préparer à la rencontre avec l'œuvre. On peut pas, il n'y a pas une sorte de spontanéisme qui serait ça. Pour le coup, c'est une vision très socialement construite de se dire que finalement il suffit de mettre quelqu'un en face d'une œuvre pour qu'il ait un choc esthétique. Ça peut arriver, bien sûr, mais enfin souvent c'est quand même très construit, très préparé pendant des années justement d'acculturation. Et c'est ça qu'il faut permettre. Ça implique un travail à l'école, dès le plus jeune âge. Ça implique un travail aussi, évidemment, en dehors de l'école. Ça implique les médias, ça implique beaucoup de gens. Mais enfin, à mon avis, l'école, c'est quand même le lieu central où ça doit se passer pour qu'à un moment, il y ait cette rencontre esthétique-là. Et ça se fait, encore une fois, j'insiste là-dessus. Je prends l'exemple du Centre Pompidou à Metz. On a des programmes de ce qu'on appelle les petits ambassadeurs. Donc on travaille avec les établissements scolaires de la région, de la Lorraine, et avec des publics, donc des enfants qui ne viennent pas de milieux socialement favorisés, forcément. Et puis, il y a des médiateurs. Et c'est très important d'avoir des médiateurs culturels qui soient formés pour les enfants, qui les accompagnent dans les expositions, face aux œuvres. Ils travaillent main dans la main avec les enseignants. Et ensuite, ces enfants, ils deviennent eux-mêmes les ambassadeurs du Centre Pompidou. C'est-à-dire que c'est eux qui vont accompagner leurs parents, leur famille ou leurs petits camarades des autres classes pour leur faire visiter les expositions. Et ça marche formidablement bien. C'est-à-dire les enfants sont extrêmement fiers. Et puis ensuite, ils deviennent eux-mêmes les vecteurs de cette transmission et de ce goût pour l'art, pour la culture.
Donc ça commence évidemment très tôt, puisque vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure Daniel Mesguich, et puis qu'on est un petit peu à l'heure des confidences dans cette émission où chacun aussi raconte quelques expériences. Vous disiez tout à l'heure Daniel Mesguich, finalement il n'y a pas de meilleur artiste que les vrais artistes. Moi, je voulais juste apporter peut-être une petite contradiction, ça sera quasiment une conclusion, puisqu'il nous reste à peine une minute, c'est que le spectacle qui m'a le plus ému, qui m'a le plus touché cette année, c'était un spectacle fait par une association, une association de l'Essonne qui s'appelle Les Citoyens Agités, ils sont à Ris-Orangis. Alors, ils sont sur la thématique du vivre ensemble, c'est des choses qui font toujours un petit peu peur, mais qui ont fait un spectacle pour expliquer un petit peu les problèmes qu'il pouvait y avoir à cohabiter entre différentes cultures. Et je dois dire que c'est le spectacle des 12 derniers mois qui m'a vraiment le plus touché, uniquement avec des gamins qui montaient sur scène.
Vous êtes touché par ce qui est sociologique.
Non, transposer sans littérature. Je crois que j'étais vraiment touché, vraiment, comme je peux être touché par un spectacle, par un livre, par un film.
Je comprends, mais transposer sans littérature. Le livre qui m'a le plus touché, c'est pas Chateaubriand, c'est pas Pascal Quignard, c'est pas Rousseau, c'est le livre écrit par les jeunes lycéens, etc. Vous ne pourriez pas tenir longtemps la route, enfin.
Bon, en tout cas, voilà, c'était cet exemple-là. C'est vrai que, merci en tout cas Daniel Mesguich.
Ne sous-estimez pas l'endurance d'Hervé Gardet.
Et voilà, on aura l'occasion d'en discuter après la fin de ce direct. Daniel Mesguich, donc Nathalie Hennig, Aurélie Filippetti, merci d'avoir participé à cette discussion réalisée comme chaque jour par Nathalie Salle. Merci aux équipes du Rectorat de Montpellier et du Festival. Demain, on se retrouve à partir de 17h, toujours au rectorat, justement autour d'une révolution anthropologique, celle-là, la place de l'humain face au monde animal et face au monde en devenir des robots. Voilà, tout de suite sur France Culture, il est 18h, c'est le journal avec Catherine Dutu.